Bien, nous pouvons reprendre. Alors, en nous référant maintenant au titre de Gratian, qui est plus complexe que l'homme de cour, puisqu'il y a quatre mots qui peuvent importer: oraculo, manual, arte, prudentia. On peut commencer par oraculo et en rappelant que lorsqu'on travaille avec le vocabulaire de textes du siècle d'or, il y a une possibilité d'éviter la projection et la tentation de projection anachronique des sens que l'on donne aujourd'hui dans l'espagnol à ces mots en contrôlant la manière dont ils sont rapportés à leur étymologie, définis, exemplifiés dans le dictionnaire de la langue castillane ou espagnole, c'est le titre complet, de Sebastián de Covarrubias, un livre publié en 1611 et qui est sans doute le premier grand dictionnaire d'une langue européenne et qui permet le plus souvent de découvrir derrière les sens attendus ou projetés sur les mots des sens différents. Et donc, du coup, l'exercice consiste à toujours mettre en rapport les termes que l'on rencontre dans les œuvres ou dans les titres avec les définitions du Covarrubias. Oraculo, bon, l'oracle. Et le premier sens est évidemment celui d'une réponse ambiguë, équivoque, que les dieux des gentils donnaient à ceux qui les questionnaient. Covarrubias définit de cette manière-là auprès des los gentiles, c'est-à-dire avant les chrétiens, c'était la réponse que donnaient les démons et les faux dieux, qui toujours ces réponses étaient equivocas et ambiguas, ambiguës, équivoques. Et il y a ce premier élément donc d'une science cachée, d'un sens qu'il faut découvrir derrière les mots. Et il cite Covarrubias, un proverbe, il n'y a pas de réponse oraculaire sans une science cachée. Ni hay de oráculo respuesta sin alguna oculta ciencia. On est donc devant l'idée d'un sens à déchiffrer, et l'expression qu'il cite aussi de palabras de oráculo, des paroles d'oracle, renvoie à l'idée de réponses équivoques, confuses, qui ne sont pas immédiates. Oracle est aussi la personne, le dieu, la divinité qui est écoutée pour son savoir et sa doctrine. Déjà une tension dans le sens entre ces réponses équivoques et ambiguës qui peuvent tourner à la confusion, et d'autre part, ce savoir, cette doctrine respectée chez ceux par ceux qui écoutent les oracles. Mais ce qui reste, c'est ce champ lexical où l'on est dans l'ambiguïté, les arcanes, le secret, le sens à découvrir derrière les mots. Oraculo manual, et l'effet produit par ce titre était pratiquement l'effet d'une antithèse, d'un oxymore, puisque manual, dans la langue espagnole de ce temps, signifie à la fois un objet. Le mot a un sens manuel, un sens matériel, et qui est celui du livre portable sur soi. Dans le Covarrubias, il est dit, se dit, de toutes les choses que l'on peut porter dans la main ou avec facilité sans en être embarrassé. Et donc, le sens matériel est celui finalement du livre de poche, celui du livre portable, et effectivement, l'oraculo manual de Baltasar Lorenzo Gratian est un livre très petit, format in 24, oblong, Et là, j'ai sur la table un certain nombre des rééditions, enfin des reproductions qui ont été faites par l'Institut de Saragosse, qui est l'Institut Fernando el Católico, et par le gouvernement d'Aragon, et qui donne en fac-similé la reproduction, y compris du format. Alors évidemment, les livres ont le même format, mais dans le cas de l'Oraculo Manual et Arte de Prudencia, il s'agit d'un in 24 oblong, et donc un tout petit format. Très peu d'exemplaires ont été conservés de cette édition de 1647. Pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y en avait qu'un seul qui était conservé dans une bibliothèque en Argentine, dans une estancia, à Los Talas, près de Luján, par un collectionneur qui était en même temps un propriétaire terrien, mais un spécialiste du siècle d'or et en même temps un collectionneur de livres anciens qui s'appelle Fourte. Un deuxième exemplaire a été découvert à la bibliothèque de Copenhague, et il y a peut-être, mais la description bibliographique n'est pas complètement suffisante pour le trancher, un exemplaire dans la Bibliothèque nationale du Guatemala. Mais c'est montrer la rareté de ce livre, ce qui est peut-être d'ailleurs la preuve de sa circulation, parce que, comme vous le savez, on pourrait établir presque une loi de inverse proportionnalité entre le nombre d'exemplaires survivant d'une édition avec la force de sa circulation et de ses emplois. Et plus les matériaux sont d'ailleurs fragiles ou sans grande valeur, comme l'est un petit in 24 de ce type, plus les chances de disparition sont grandes. Et un autre principe de ces disparitions serait que plus un livre avait de chances d'être conservé dans une bibliothèque institutionnelle, en particulier universitaire ou religieuse, plus le nombre d'exemplaires qui en survit est grand. Alors que s'il s'agit d'usages privés de particuliers, de matériaux imprimés plus fragiles, plus les chances ou les malchances de leur disparition est grande. De toute façon, ici donc, un accord entre le terme du titre, manual, et la matérialité de l'objet qui est portable et qui est effectivement dans la main. Il faut prendre le terme au sens étymologique. Alors que le format de Hamelot de Lahousset est un plus grand format qui n'est pas aussi immédiatement maniable. Mais d'un côté, et c'est ce qui, d'un autre côté, c'est ce qui ajoute à la complexité de cette définition, manual a un sens non pas seulement matériel, comme dit Covarrubias, lo que es fácil de traer entre los manos, manuel main, mais il a le sens textuel, c'est-à-dire celui du substantif un manuel, c'est un livre dans lequel on résume une matière. Le manuel ou les manuales, pour Covarrubias, sont les sumas de libros abreviados, des sommes de livres abrégés. C'est donc un compendium, un résumé, un sommaire. Et donc, on a là la définition d'un savoir qui trouve sa forme résumée dans ce livre. Comme s'il y a une contradiction entre le secret de l'oracle, d'une part, et d'autre part, la publicité qui est donnée par la forme du manual, forme matérielle, il peut être d'un usage immédiat et commun, et forme textuelle, il donne le sommaire, le résumé de tout un savoir. Et cette tension est tout à fait forte dans le cas de dans la manière dont elle est indiquée par le titre et aussi par l'avis au lecteur, qui donc, dans l'édition qui n'est pas celle d'Hamelot de Lahousset, qui n'a pas traduit ce texte, mais l'édition moderne, d'une traduction moderne, peut être traduite de la façon suivante, la façon dont Lorenzo Gracián ou Baltasar Gracián ou Lastanosa s'adressent au lecteur. Le juste n'a que faire des lois, le sage de conseils, mais personne ne l'est suffisamment pour lui-même. Tu dois me pardonner, lecteur, une chose et me savoir gré d'une autre. L'une, appelée oracle, cet abrégé de règles de la vie, puisqu'il est sentencieux et concis. L'autre, t'offrir d'un seul coup les 12 gratianes, chacun si estimé qu'à peine parut-il en Espagne que son honnête homme se vit publié en France, traduit en sa langue, imprimé dans sa capitale. Alors cette adresse au lecteur mérite évidemment d'être déchiffrée, parce que d'un côté, il y a la traduction difficile de ce qui est dit sur cet abrégé des règles de la vie, puisque dans le cas de l'espagnol, il s'agit de epitome, abrégé, des aciertos del vivir, des règles les plus justes, des savoirs les plus adéquats pour l'existence, avec cette possibilité de substantiver le verbe. Et donc, parce qu'il est sentencieux et concis, l'idée de sentencieux concis étant à la fois cette idée de la sentence qui fonde le principe des aphorismes, le principe des maximes, le principe des lieux communs, et d'autre part cette idée de la concision qui est revendiquée par Gratiane comme étant la forme du laconisme, une manière d'écrire qui est concentrée et dense et qui évidemment s'ajuste avec cette idée du texte qui est une arcane que le lecteur doit déchiffrer. Plus bizarre ou mystérieux est cette idée de les 12 gratianes, comme s'ils étaient en quelque sorte résumés tous les autres livres à l'intérieur de ce livre-là, comme si finalement, en 1647, Balthasar Gratian définissait déjà un corpus de ses œuvres, mais évidemment qui ne comporte pas 12 titres. Les titres préalables, mais qui sont intéressants d'analyser, qui posent des problèmes bibliographiques tout à fait passionnants pour ceux qui se passionnent à ces questions, d'abord El Héroe, qui a été publié en 1637, lorsque Gratian était à Huesca, par Juan Nogués, mais aucun exemplaire n'a survécu de cette édition. Autre exemple de la qui était une édition en petit format in 16. C'est pas aussi petit que le in 24, mais c'est un très petit format. Et le livre est connu par une seconde édition, elle aussi in 16, à Madrid en 1639. Gratian, après El Héroe, est connu pour ce livre El Politico, Fernando de Aragon, sur un des deux rois catholiques, le mari d'Isabelle la catholique, et qui est publié à Saragosse par Dormer en 1640, parce que Gratian se trouve là, et qui est aussi en format in 16. Le troisième livre qui précède le Arte de Prudencia est le livre qui s'appelle Agudeza y Arte de Ingenio, et qui est lui qui a été publié à Madrid, où se trouvait Gratian, en 1642, en un format in octavo, et qui est un livre plus important, plus imposant. Et le quatrième, El Discreto, publié quand Gratian est retourné à Huesca en 1646, avec le même Juan Nogués, le même imprimeur, et qui est aussi en un format in 16. Donc il y a un goût de Gratian pour les petits ou très petits formats. La plupart des livres sont en format in 16, voire pour l'Oraculo Manual, in 24. Comme s'il y avait un accord entre finalement le laconisme du style qui fait des œuvres brèves et denses, et de l'autre part le format matériel du livre qui les donne à lire dans une forme qui est possible de tenir dans les mains et donc d'accompagner le lecteur dans le cours de l'existence. Sur ces questions qui seraient le début des 12 gratianes qu'évoque l'avis au lecteur de 1647, on peut voir qu'il y a ici une relation forte entre un auteur, peut-être un patron, Lastanosa, et un imprimeur, Juan Nogués, puisque lorsque Nogués n'est pas le premier éditeur ou imprimeur de titres, comme c'est le cas avec El Politico, comme c'est le cas avec l'art de Ingenio, il réédite à Huesca les titres qui ont été publiés ailleurs, dans un cas Saragosse et dans l'autre Madrid. Et cette idée du format portable s'accompagne aussi chez Gracián d'une conception du livre qui est une conception liée à la praxis, utilitaire, immédiate. Aucun de ces livres ne porte une illustration de frontispice. Tous sont faits sur un papier assez médiocre et avec une typographie, elle aussi, tout à fait commune. Aucun livre n'a d'illustration. C'est-à-dire ce en quoi a confiance Gracián, c'est dans le pouvoir des mots et la proximité de l'objet. Et donc, du coup, que cette manière d'utiliser le véhicule imprimé, loin aussi de l'ostentation de beaucoup des ouvrages publiés par ses confrères de la Compagnie de Jésus, le choix du petit format, le choix d'une forme relativement, d'une forme modeste, l'absence d'illustration, donc on peut supposer un coût de production et un coût d'achat relativement bas, renvoyait la matérialité portable du livre à ce qui en était son essentiel, c'est-à-dire en fait le texte qu'il portait, les aphorismes qui étaient là donnés, et avec cette idée que l'écriture doit protéger le livre contre les appropriations de ceux qui ne peuvent pas les comprendre. Dans l'avis au lecteur d'El Discreto de 1646, on a cette idée, enfin il y a la phrase suivante, le style laconique va jusqu'à la production de mystère. Et on retrouverait là le terme de l'oracle et ce paradoxe qui est tenu entre oracle et manuel. Mais le titre n'est pas seulement cela, c'est aussi « Et l'art de la prudence ». Alors, Arte ne mérite pas énormément de commentaires, encore que, évidemment, c'est un mot très frappant, très utilisé dans des titres, aussi bien en Espagne qu'en France, dans le XVIIe siècle. La définition du Covarrubias est intéressante. La faculté qui prescrit des règles et des préceptes pour que les choses soient faites droitement. La facultad que prescribe reglas y preceptos para hacer rectamente las cosas. Et ce rectamente vient directement d'une étymologie latine où il donne dans son article ars est recta ratio rerum faciendarum. La raison droite de faire les choses. Et donc, du coup, Arte est d'introduire l'idée d'un ordre, d'une raison, et comme dit Covarrubias, d'un concert, d'une harmonie, puisque, dit le dictionnaire, nous disons que les choses qui sont sans cet ordre, sans cette raison, sans ce concert, on les dit sin arte, faites sans art. Donc s'introduit ici dans le texte l'idée que l'art est non seulement des préceptes, mais ce sont des préceptes ordonnés qui définissent une rationalité, un concert de raisons. Et qui permet du coup de faire les choses droitement, correctement, comme il faut les faire. Et on trouverait là peut-être une tension entre les structures même du livre qui sont des aphorismes, juxtaposés les uns à côté des autres et qui paraissent plutôt suivre l'ordre ou un ordre qui serait celui de la compilation. Et en fait, derrière cette apparence d'arbitraire ou de juxtaposition ou d'accumulation, la présence d'un ars au sens de Covarrubias, c'est-à-dire d'un ordre, d'une raison, d'un concert de règles et de préceptes. On voit que derrière des mots qui apparaissent si simples, qu'il y a de multiples contradictions, tensions ou accords cachés qui sont présents. Alors le mot, évidemment, important du titre, c'est « prudence ». Puisque là, Gracian opère une série de déplacements de cette catégorie de la prudence. Cette catégorie de la prudence était d'abord une catégorie qui appartenait au genre des traités du prince, des miroirs du prince, et en quelque sorte la prudence définie comme un instrument de la raison d'État. Et Gracian déplace cet instrument de la raison d'État à un instrument de la raison de soi-même. C'est-à-dire ici, on passe d'un miroir des princes qui donc s'adresse à ceux qui gouvernent dans la tradition des traités médiévaux ou de la première modernité des arts du ou des miroirs du prince, déplacé sur une visée qui n'est plus celle de l'art du gouvernement des hommes, mais qui est l'art de se gouverner soi-même. Et donc, du coup, un destinataire qui n'est plus ceux qui veulent ou sont déjà princes, mais qui est un destinataire universel, qui n'est pas particularisé, qui n'a pas une fonction spécifique dans l'ordre social et politique. Et c'est un premier déplacement de la prudence comme une vertu politique du prince à une nécessité de la praxis pour chacun. Ce déplacement-là, il est accompagné par un déplacement théologique, parce que la prudence est une vertu chrétienne. C'est une des vertus cardinales. Selon la somme de saint Thomas, lorsqu'il s'agit de considérer les moyens d'accéder à la félicité parfaite, je cite, prudence ou vertu politique est servante de la sagesse, car elle y introduit et en prépare la route comme le serviteur qui se tient au seuil d'un roi. On a donc la prudence définie comme vertu cardinale, comme au service d'une sagesse qui mène à la félicité parfaite. Gracian prive le terme de cette dimension de vertu cardinale pour la transformer, comme on l'a vu, en une règle, en une série de règles, un art de règles de conduite qui sont fondées sur l'exercice du jugement afin d'éviter les pièges qui sont omniprésents dans le monde social. La définition que donnait Covarrubias était prudent, c'est l'homme sage et reportado, reportado dans le sens de celui qui a du bon sens, le sens commun, cet homme sage qui pèse toutes les choses con mucho acuerdo. Et là, le mot, c'est cordura, qui veut dire à la fois la capacité d'exercer le bon sens et en même temps la faculté du jugement. Il y a donc dans cette prudence-là, qui est séparée en quelque sorte de sa définition théologique, l'idée que c'est un exercice du jugement, un exercice du sens, de façon à ajuster les comportements à la situation et faire agir ou penser l'autre comme on veut qu'il agisse ou pense, et de se protéger soi-même contre les pièges qui sont tendus à chaque moment dans le monde social par autrui. On voit donc qu'il y a là une séparation d'avec un sens hérité de la vertu cardinale dans la tradition chrétienne, mais qu'il y a peut-être aussi un fondement métaphysique à cette réalité, enfin à cette définition de la prudence. Elle n'est plus une vertu chrétienne, mais en même temps, ainsi définie, elle n'est pas sans rapport avec un élément fondamental du christianisme, c'est-à-dire l'idée du monde corrompu d'après la chute, d'après la faute. Il y a un des aphorismes qui donne cette... on peut le lire, par exemple, dans la définition qui en est donnée, dans la traduction, pourquoi pas, là, de Hamelot, de la Housset, parce que là, il est très proche du texte de Graciane, cette idée de l'imperfection radicale du monde terrestre corrompu depuis la faute originelle. La maxime a pour titre « Au ciel, tout est plaisir, en enfer, tout est peine, le monde, comme mitoyen, tient de l'un et de l'autre. Nous sommes entre les deux extrémités, et ainsi nous nous tenons de toutes les deux. Il y a une alternative de sort. Ni tout ne saurait être bonheur, ni tout être malheur. Ce monde est un zéro. Este mundo es un cero. Tout seul, il ne vaut rien. Joint avec le ciel, il vaut beaucoup. C'est sagesse d'être indifférent à tous ces changements, parce que la nouveauté n'est point le fait des sages. Notre vie se joue comme une comédie. Sur la fin, elle vient à se dégager. Le point est de la bien finir. Cette idée que ce monde est un zéro et que all the world stage, toute la vie est une comédie, renvoie à cette idée d'une imperfection radicale, d'un mal présent sur le monde, et du fait de la conséquence de cette faute originelle. Et dans la maxime 219, on reprend ça, mais dans un langage qui était celui de la littérature antique, « La candeur florissait dans le siècle d'or, la malice règne à son tour dans ce siècle de fer. » Et donc le vocabulaire des anciens vient donner une autre expression à cette idée du monde d'avant la chute et du monde d'après la chute. Et donc, on voit que là aussi, une distorsion est introduite par, sans doute, ce fondement métaphysique essentiel qui est celui de considérer que le monde corrompu est un monde où l'on doit avoir donc une morale par provision, une possibilité de se protéger contre les méchants. Il y a de nouveau une distorsion par rapport à la perspective thomiste où la prudence est pensée comme la présence de la lumière divine dans chaque homme, de sorte, comme disait le Père Chenu dans un commentaire, de sorte que coïncide le regard de foi et la conduite humaine pour que se trouvent réfractés dans chaque comportement les attributs éternels de Dieu, le bien, la vérité, la justice. On est dans une définition où que la prudence est cette présence dans l'homme des attributs éternels de la divinité. Et donc, du coup, il faut la coïncidence qui doit exister entre la conduite et le regard de la foi. Chez Graciane, cette prudence est une prudence d'après la faute et où l'essentiel réside dans la défense et la protection contre les inconvénients, les déplaisirs, les disgrâces. Et beaucoup de ces des aphorismes se lient avec cette réalité. On peut prendre l'aphorisme 64, par exemple, avec son comparaison, ce qu'il faut faire chaque fois avec le texte espagnol. Dans l'aphorisme 64, le titre que lui a donné Amelot de la Houssaye est « Savoir s'épargner du chagrin ». Saberse excusar pesares. Et commence la maxime, c'est une science très utile, c'est comme la sage-femme de tout le bonheur de la vie. C'est donc une leçon d'usage et de justice que toutes les fois que tu auras à choisir de faire plaisir à autrui ou déplaisir à toi-même, tu feras mieux de laisser autrui mécontent que de le devenir toi-même sans remède. Donc on voit qu'on est assez loin des commandements et des préceptes chrétiens. Il y a cette idée profonde de la protection de soi dans un monde corrompu. Et on voit d'ailleurs comment là, Amelot de la Houssaye s'éloigne du texte espagnol, puisque c'est lui qui introduit « c'est comme la sage-femme de tout le bonheur de la vie », parce que le texte original était « es cordura provechosa a ahorrar de disgustos », donc une forme très réduite, c'est jugement profitable que de s'économiser les disgrâces ou les déplaisirs. Et on voit la difficulté de la traduction pour Amelot, mais pour quiconque, de la langue de Gracian, puisque si on se réfère à la façon dont Benedetto Pellerin a traduit cette maxime, on trouve « savoir s'éviter des chagrins », ça, oui, on est d'accord, « profitable sagesse, s'épargner les chagrins ». Et vous voyez que le terme de « cordura » a été traduit en 1684 par Amelot comme « c'est une science très utile », qu'il est traduit aujourd'hui par cette traduction moderne comme « profitable sagesse », on n'est pas tout à fait dans le même registre, et effectivement, « cordura » peut avoir ces deux éléments. Un élément qui est celui de la capacité à exercer son jugement. Cuerdo était équivalent de discreto, celui qui est capable d'exercer un jugement. Et c'est ce qu'on dit de Don Quichotte lorsqu'il n'est pas loco, lorsqu'il n'est pas fou, lorsqu'il n'est pas obsédé par le monde de la chevalerie. C'est un homme qui tient, comme dit le texte, un excellent capacité de jugement. Escuerdo, il est avisé. Et donc on voit la difficulté qui est intrinsèque à Gracian de savoir si le registre, c'est un registre de la connaissance, de la science, du jugement, ou si le registre, c'est un registre de la sagesse. C'est un registre d'une sagesse qui, dans ce cas-là, est une sagesse de protection de soi contre les déplaisirs du monde. En même temps, comme on le voit ce qui est donné dans cet aphorisme, c'est le fait que la prudence évite beaucoup de ces déplaisirs, comme le texte de la maxime l'indiquait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Amelot lui-même est tout à fait conscient de l'écart entre les deux textes et du titre qu'il donne, lui, l'homme de cour, et le titre qui était celui de l'oracle manuel et art de la présence. Il évoque cette question à la fin de sa préface de l'homme de cour, lorsqu'il dit « Vous remarquerez en passant que le titre d'homme de cour s'accorde très bien avec celui de Arte de Prudencia, la prudence n'étant nulle part si nécessaire qu'à la cour. » Donc il résout cette difficulté par cette idée que la prudence peut être universelle, mais en tous les cas, elle a une pertinence toute particulière à la cour. Et c'est un autre commentaire plus avant, qui est sur le titre, qui renforce cette idée. Toujours la préface d'Amelot. Il y a presque autant de préceptes et de mystères que de lignes dans le livre de Gratian. Et c'est assurément pour cela que le compilateur, la Stanosa, l'a intitulé Oracle manuel, titre que j'ai changé en celui d'homme de cour qui, outre qu'il est moins fastueux et moins hyperbolique, explique mieux la qualité du livre, qui est une espèce de rudiment de cour et de code politique. Et on retrouvera la dimension curiale et la dimension royale. Mais évidemment, on voit là l'immense discontinuité entre un texte qui n'a pas de destinataire particulier, qui a une vocation universelle parce que la chute, la faute est celle de l'humanité. Cela ne veut pas dire que tout le monde est capable de comprendre l'oracle manuel ou l'art de la prudence, mais en tous les cas, jamais il n'est fait mention de la cour et il ne s'adresse pas seulement ou particulièrement au prince. Donc la définition du destinataire et de la destination de l'oracle manuel de Gratian est totalement séparée de la société de cour. Ce que fait Amelot, c'est de considérer que ce qui est le contenu du titre du livre, les vertus ou les qualités qu'il défend sont particulièrement utiles et propres au monde de la cour. Et donc, du coup, il curialise ce livre qui n'avait aucune référence particulière à la société de cour dans son original espagnol. Alors, je termine cette première présentation avec le troisième écart. On a vu qu'il y avait un écart dans les modes d'attribution. L'oraculo manual, Lorenzo Gratian, la Stanosa, le dédicateur. L'homme de cour, Baltasar Gratian, le traducteur, Amelot de la Housset. On a vu qu'à partir de l'analyse des deux titres, on pouvait opposer cette destination universelle, sinon dans sa lecture, du moins dans son dessin du livre du jésuite Gratian, avec cette curialisation et cette absolutisation du texte dans la traduction de Amelot de la Housset. Alors évidemment, le troisième et préalable écart est celui de la langue. Et Amelot ne peut pas éviter ce point de départ, puisque, comme je le disais, dans un courant anti-espagnol, il y avait cette idée que Gratian était incompréhensible et qu'il ne se comprenait pas lui-même. Alors, Amelot affronte cela dans la préface. Cela supposé, c'est-à-dire ce que j'ai lu préalablement, que le livre est un homme, définit un homme de cour et définit un homme d'État, cela supposé, il ne faut pas s'étonner si Gratian passe pour un auteur abstrait, inintelligible, et par conséquent intraduisible, car c'est ainsi qu'en parlent la plupart de ceux qui l'ont lu. Et je sais même qu'un savant, c'est toujours le père Bourg, à qui quelqu'un de mes amis disait qu'on le traduisait, répondit que cela lui était bien téméraire, que cela était bien téméraire, qui osait se mêler de traduire des œuvres que les Espagnols même n'entendaient pas. J'espère que cette prévention contre Gratian n'empêchera pas que l'on nous fasse justice à tous deux, Gratian et lui, quand on lira ma traduction, qui sans doute montrera que Gratian est intelligible et que tout difficile qu'il est à traduire en notre langue, qui n'est pas si riche en mots ni si ami de la métaphore et de l'hyperbole que la langue espagnole, il n'a pas laissé d'être traduit avec succès, étant sans faux que son laconisme perpétuel lui puisse être reproché comme un défaut. Au contraire, il en doit en être plus estimé, attendu qu'il s'est fait une loi de ne rien dire de superflu et de ne parler qu'aux bons esprits à qui il faut dire plus de choses que de paroles. Son langage, il est vrai, est une espèce de chiffre, mais le bon entendeur le peut déchiffrer sans avoir besoin d'aller au devin. Donc, il y a là la réflexion de Hamelot sur la traduction, sur l'idée d'une intraduisible, que Dracian est intraduisible, mais que lui peut le traduire, avec cette idée finalement qu'on revient à ce qu'on trouverait dans certains des aphorismes ou des maximes qui montrent les comportements comme des chiffres, c'est-à-dire qui voilent ce qui est la véritable intention, que le texte lui-même est un chiffre, que la langue est un chiffre, que ce laconisme est un chiffre, puisque il y a là quelque chose à déchiffrer, d'abord par le traducteur pour la littéralité, et ensuite par le lecteur pour la signification. On voit qu'on revient à ce paradoxe initial, puisque d'un côté, on a ce style énigmatique, ce laconisme qui justifie la connaissance du code, cet oracle, mais qui n'est plus un oracle dont on entend une parole, mais qui est l'oracle en lui-même inscrit dans le texte, qui va écarter les petits esprits, les lecteurs frustres et ignorants, et qui sont aggravés par la librairie, et donc le paradoxe étant de mettre en circulation un texte qui n'est que pour quelques-uns, et de rendre accessible à tous une écriture qui n'est déchiffrable qu'à ceux qui en connaissent le code. Et on trouverait là quelque chose d'assez profond, c'est-à-dire par rapport à l'imprimerie, très souvent dans ces cours, ces séminaires, on a mis en parallèle avec tous les discours de louange de l'imprimerie, dès Gutenberg, tous les discours de méfiance, de distance, de stigmatisation, l'imprimerie étant à la fois la corruption morale du commerce des idées par le commerce des livres, pouvant être, et on l'a vu dans le premier cours, l'introduction par les copistes, par les correcteurs, par les compositeurs de détérioration, de corruption, de déformation des textes eux-mêmes, mais une des objections les plus fortes ou les plus grandes est cette idée de la corruption par les lecteurs, par des lecteurs frustes, ignorant, et dans le cas de la préface de Hamelot, commentant l'intraduisibilité supposée de Gracian, mais qu'en fait on peut surmonter si on connaît le chiffre, il y a là l'idée qu'une des protections contre cette dégradation, elle est donnée par le style lui-même, par le laconisme. Et je pense que dans cette tension, Hamelot s'appuie sur un texte qui n'a pas été traduit à l'époque, mais qui est l'avis au lecteur que l'on trouve dans El Discreto, le livre de 1646 de Baltasar Gracian, et qui est un avis au lecteur, lui, signé aussi comme la dédicace de l'Oraculo par La Stanossa. Et La Stanossa reprend cette idée du paradoxe. Pourquoi publier ce qui doit être réservé à quelques-uns ? Et il affronte la difficulté de la façon suivante. J'ai entendu deux types de lecteurs, je traduis au fur et à mesure, j'ai entendu deux types de lecteurs se plaindre de ces œuvres, non seulement celles du discreto, enfin les œuvres qui précèdent le discreto, El Politico, El Héroe. Les uns à cause des choses, les autres à cause du style, disant que des matières si sublimes, qui ne sont dignes que des seuls héros, se vulgarisent, c'est vulgarisen, avec l'imprimerie, la estampa, et que quelque homme du peuple que ce soit, quelque plebeio, pour le prix d'un réal, peut faire mauvais usage, mal lograr ce que peut en faire mauvais usage. Ainsi, on a cette idée que la diffusion par l'imprimé peut être la source de cette vulgarisation au sens social. Tout le monde, y compris les hommes du peuple, peuvent acquérir les livres, et en même temps, dans un sens textuel, c'est-à-dire d'abaisser, de corrompre, de déformer le texte. Les seconds opposent que ce mode d'écriture, dans ce style concis, fait perdre... Alors ça, c'était le reproche des premiers, ceux qui reprochent la vulgarisation de ces arcanes par la publication imprimée. Les seconds qui s'intéressent au style disent que ce mode d'écrire, avec ce style concis, en vient à faire perdre à la langue, en vient à détruire la langue castillane parce qu'il détruit sa clarté que d'autres, enfin qu'eux, appellent pureté. J'essaye de répondre aux uns et aux autres en une seule fois et de les satisfaire les uns et les autres, de sorte que l'objection première soit la solution de la seconde et la seconde de la première. Je dis donc que ces livres ne sont pas écrits pour tous, para todos, et pour cela, c'est pour cette raison que la arcanidad del estilo, l'aspect d'arcane du style, le chiffre, augmente la vénération de ce qu'il y a de sublime, faisant plus vénérer les choses lorsqu'elles sont énoncées d'une manière mystérieuse. Que ni Sénèque ni Aristote n'ont perdu les langues grecques et latines avec leur manière d'écrire occulte, escribir recondito. Et il termine, tu mérites, lecteur discreto, lecteur qui a capacité de juger, soit parce que tu es déjà discreto ou parce que tu le seras, d'avoir entre tes mains cette arte de entendidos, cet art des choses à comprendre, ces aphorismes de prudence. C'est déjà, on a anticipé sur l'oraculo manual, que de définir el discreto comme des aphorismes de prudence pour ton goût et pour ton profit. On voit que Hamelot va simplifier, va réduire ces tensions ou ces contradictions qui sont présentes dans l'original espagnol, où se trouve étroitement lié ce style coupé, ce style énigmatique, qui était aussi le style de Tacite. Et dans le tacitisme de Hamelot de Lahousset, il n'y a pas seulement le fait d'avoir traduit et commenté des livres de Tacite, il y a aussi une volonté d'imitation dans la traduction de ce qu'était le tacitisme de Graciane, dans sa manière d'écrire. Et là, dans le cas du texte de la Stanosa, ou peut-être écrit par Graciane lui-même, on voit que sont liés le mode mystérieux de dire, el misterioso modo de decir, avec, d'un côté, la vénération, c'est-à-dire le sublime du savoir qui est transmis à ceux qui savent déchiffrer ces arcanes, ce néologisme sans doute de arcanidad, et de l'autre côté se trouvent mis à distance ceux qui, mécaniques, plébéiens, vulgariseraient le texte, donc lui donneraient une forme bâtarde, une forme corrompue, en s'en saisissant sans être dotés de la capacité, de la cordura, de la discrétion, de la capacité à pouvoir juger. Alors l'intéressant, évidemment, dans ce cas-là, est de renvoyer à un discours sur la publication imprimée qui déborde beaucoup le cas du livre de Graciane et de sa traduction par Hamelot, Delage, Housset, qui pour se référer à toutes les discussions entre, d'un côté, ceux ou celles qui attribuent à l'imprimerie des qualités intrinsèques, la perspective ouverte par Elisabeth Eisenstein, qui considère que intrinsèquement dans l'imprimé, en particulier dans le livre imprimé, sont présentes des valeurs de dissémination, standardisation, conservation. Donc, en quelque sorte, on a affaire à une culture de l'imprimerie qui a ses propriétés intrinsèques, à ceux qui pensent que ce qu'est la publication imprimée, des livres ou pas seulement des livres, est en fait le résultat d'un affrontement de signification. C'est-à-dire que la technique, comme le pensait Walter Benjamin, n'a pas en elle-même de caractéristiques qui lui attribuent des qualités propres, mais elle est ce que les usages et les discours en font. Et donc, à partir de là, au XVIe, au XVIIe siècle, l'affrontement entre les discours qui veulent accréditer l'imprimé d'un poids de savoir, de vérité, d'authenticité, et d'autre part, les discours qui sont méfiants par rapport à la forme imprimée et essayent de protéger la circulation des textes des trois corruptions que j'ai évoquées, la corruption par la librairie, la corruption par l'atelier d'imprimerie et la corruption par l'ignorance des lecteurs. Protéger l'écrit de ces corruptions peut amener au stigma of print, à la stigmatisation de l'imprimé et au maintien de la force de la publication manuscrite, qui généralement peut être soustraite au commerce de la librairie, qui implique la participation des seuls copistes que l'on peut contrôler et qui, en général, fait circuler les textes dans un univers de lecteurs qui est à l'identique avec l'univers, le monde de l'auteur. Et c'est une des stratégies pour protéger les textes des corruptions de l'imprimé. Une autre stratégie plus subtile, on la voit dans le texte de Gracian, dans le commentaire de la Stanossa, dans la reprise par Hamelot de la Housset, c'est-à-dire que la protection contre les corruptions, et en particulier la corruption par la lecture, par le contresens, par l'ignorance, par la vulgarisation du texte, elle peut être inscrite dans le texte lui-même lorsque, tout en étant offert au marché du livre, il est protégé de ces altérations par la manière d'écriture, la façon de dire, comme disait la Stanossa, el misterioso modo de decir, qui suppose la connaissance du chiffre et la capacité du jugement. Alors, je vais en rester là, et la semaine prochaine, un peu comme on l'avait fait avec Las Casas, nous allons sortir des frontières et en particulier d'essayer de suivre les traductions de ce livre de Gracian à travers, ou non, mais en général, oui, la traduction de Hamelot de la Housset, et d'essayer de comprendre à la fois à une échelle globale et à une échelle plus particulière d'études textuelles quelles sont les transformations qui sont opérées sur le texte par le geste même de le traduire. Alors donc, pour le dernier cours de l'année 2012, rendez-vous donc le 20 décembre. Merci.